Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver fidèles à cette émission du troisième dimanche de chaque mois. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Jean-François Pluviot, bonjour Jean-François, bonjour. Et Patrice Corbin, bonjour Patrice, et parce que vous avez écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Le territoire des maçons », et ça va nous servir de, puisque c'est une forme de dictionnaire à l'intérieur de ce livre, ça va nous servir de prétexte à définir quelques thèmes couramment utilisés en franc-maçonnerie et à la Grande Loge de France en particulier. Alors, évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que votre livre s'appelle « Le territoire des maçons ». Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Pourquoi un territoire, ça semble quelque chose de fermé, d'enfermant ? Moi, il me semble que la franc-maçonnerie est au contraire ouverte. Pourquoi ce titre de territoire ? Jean-François, peut-être ?
Oui, je vais essayer. D'ailleurs, je crois que la quatrième de couverture définit assez bien le territoire des maçons. C'est l'endroit où vivent les maçons. C'est l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire avec tout ce que ça suppose d'un paysage particulier fait de mots, de mots récurrents, de principes, de visions du monde, et puis d'une pratique, à travers, au moyen d'un rituel, d'une pratique de la maçonnerie. Donc c'est en gros ce qui est l'univers maçonnique. L'univers maçonnique, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'imaginaire maçonnique, c'est le territoire des maçons.
Donc il n'y a pas de frontière, hein, ce territoire.
Non, il n'y a aucune frontière.
Ah, alors c'est peut-être pourquoi...
Il y a des limites.
Patrice, en dessous, je vois le sous-titre de votre livre, « Tentative d'inventaire ». Donc en effet, c'est une espèce de dictionnaire qui n'est pas exhaustif, mais d'inventaire de l'imaginaire maçonnique.
Oui, c'est un peu ce que vient de dire Jean-François. C'est-à-dire qu'au départ, nous n'aurions certainement pas eu l'audace d'intituler ce livre sur l'imaginaire maçonnique et de penser qu'il serait complet. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte qu'en additionnant à la fois des éléments de rituels, de vie maçonnique, de mots qui composent la vie maçonnique, mais en même temps d'éléments philosophiques ou historiques, on finissait par effectivement composer une forme d'imaginaire maçonnique, à compléter bien sûr.
Alors, si vous voulez bien, on va feuilleter votre livre et puis s'attarder sur quelques mots. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais un peut-être qui s'appelle le mot « transmission », qui est associé au mot « tradition ». Et à côté, vous avez mis en sous-titre « la survie ». Mais Jean-François Pluviot, vous avez écrit de nombreux livres et vous êtes aussi un poète connu. Et dans un des livres qui s'appelle « La critique de la raison maçonnique », qui est paru chez Derby, je recommande la lecture à tous ceux qui connaissent la franc-maçonnerie et tous ceux qui souhaiteraient la connaître. Eh bien, il y a un chapitre où vous parliez déjà à l'époque de la tradition, mais là, le sous-titre, c'était « Le sens de la vie ». Qu'est-ce que c'est que pour vous la tradition et la transmission ?
Je ne vois pas de contradiction entre ce que nous disons aujourd'hui et ce que je disais il y a 10 ans ou 15 ans. La tradition... Et pour moi, ce que nous avons reçu, ce qui nous constitue quelque part, c'est-à-dire tout ce qui est notre manière de penser, notre manière d'être, les principes que nous véhiculons et les appartenances que nous revendiquons. Donc la tradition, enfin Patrice en parlera peut-être mieux que moi, mais c'est quelque chose qui se prolonge à travers les maçons. C'est-à-dire que pour moi, là, on en parlera peut-être à propos de la transmission c'est la vie. La vie n'existe qu'à travers la transmission, sinon elle s'arrête, bien sûr. Or, nous avons, nous le pensons en tout cas, un devoir de transmission de la pensée spirituelle, ou de la pensée tout court. Donc, pour ceci, nous nous appuyons sur tout ce qui nous a constitué au fil des temps, au fil des siècles, et tout ce que nous portons en nous de principes, de réflexions qui ont été faites par d'autres avant nous.
Alors, une tradition, quelquefois, pour ceux qui sont les grands adeptes de l'antimaçonnisme, d'ailleurs vous avez une définition d'antimaçonnisme, on y reviendra peut-être si le temps nous le permet. La tradition, c'est un peu vieillot et on nous accuse avec nos décors d'être un peu dans le passé et pas très au goût du jour.
Moi, j'avais une conception différente, parce que je rejoins bien sûr Jean-François sur ce qui nous vient de... de 3 ou 4 siècles d'histoire. Mais moi, je voulais insister sur cette idée très simple, pour faire sans pédantisme, pour une vision existentielle de la tradition. La tradition n'existe que parce qu'il y a aujourd'hui, en 2018, des maçons qui la font vivre. Et donc, la tradition, ça ne vient pas d'en haut, alors ça certainement pas, donc je suis un anti-guénonien farouche, mais c'est chacun d'entre nous qui la faisons vivre. Et c'est une vision qui, du coup, fait tomber la réflexion sur le côté passéiste.
Très bien. Alors après, il y a un autre mot qui est le mot méthode, et alors, sous-titre, vous avez mis mode d'emploi. Il y a une méthode maçonnique, Jean-François ?
Oui, bien sûr.
Elle est importante.
La maçonnerie est une société qui se veut initiatique. Donc, tout est dit à ce moment-là. C'est une sorte de maïeutique qui va nous faire révéler ce que nous portons en nous à travers un certain nombre de procédures, de manières de penser, de manières d'être. Donc, la méthode maçonnique, on peut la qualifier essentiellement par deux points en tout cas. C'est la progression. Et c'est l'absence, la progression, la remise en cause permanente de ce que l'on croit avoir appris, c'est-à-dire qu'il y a des degrés en maçonnerie. Et à chaque degré, on nous dit, vous croyez avoir compris ce qui se passe au degré précédent, je change l'éclairage, je déplace un petit peu, qu'est-ce que vous voyez ? Donc c'est une manière d'avoir une vision à 360 degrés de ce que nous sommes et de notre rapport à l'autre. Donc il y a ensuite, dans la méthode, peut-être, le problème de la... non pas de la rupture que je viens d'évoquer, mais d'avancer sur un chemin à travers des allégories, à travers des allégories et des légendes. Alors ces allégories et ces légendes ne sont absolument pas dotées d'une vérité avérée, ou elles n'ont aucune relation avec une vérité quelconque. Elles sont simplement un exemple qui va nous permettre d'en tirer les conclusions. C'est une fable. C'est une fable, mais dans cette fable, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de morale. Donc c'est à nous d'établir la morale.
Très bien. Patrice, vous partagez ce point de vue ?
Oui, absolument, je partage totalement ce point de vue. Mais en plus, si vous voulez, le mot méthode renvoie dans notre livre, enfin renvoie intellectuellement, renvoie au mot règle. Oui. Nous vivons selon une règle.
Oui. Mais alors, qui dit règle et remise en cause, il y a un autre mot que vous définissez bien, c'est le mot adogmatisme. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est très important, Patrice, dans la démarche maçonnique.
Alors, c'est vrai, c'est un mode de, j'allais dire, de classification. Le terme est peut-être pas tout à fait élégant. Mais dans la famille maçonnique, dans la grande famille maçonnique, y compris sur le plan international et bien sûr français, ça permet de définir, au fond, les obédiences pour lesquelles la croyance en un Dieu révélé, en une vérité révélée, en l'immortalité de l'âme, est indispensable. Et ceux qui, par exemple, comme la Grande Loge, mais aussi le Grand Orient, même si, au fond, ce n'était pas consubstantiel au départ à ces obédiences. Hein, rappelons que Le Grand Orient n'abandonne la croyance en Dieu qu'en 1877. Et donc, ça permet de bien classer d'un côté ceux qui estiment nécessaire dans la démarche maçonnique de croire en une vérité révélée, et les autres, dont nous sommes, Jean-François et moi, qui pensons que nous n'avons pas à nous référer à un dogme. Nous sommes adogmatiques.
Par ailleurs, la maçonnerie revendique la recherche de la vérité comme son but ultime. Il est évidemment impossible de chercher la vérité si on adhère à des dogmes qui nous la donnent, qui nous fournissent une vérité. On n'aura pas besoin de réfléchir ni de chercher. Donc il y a une antinomie entre la recherche de la vérité et le dogmatisme.
La vérité, vous dites, elle est indispensable, c'est une abstraction.
C'est une abstraction, c'est une indispensable abstraction.
Oui, c'est Jean-François qui avait trouvé ce sous-titre d'une abstraction indispensable, et ça me fait effectivement penser à la marche à l'étoile.
Ouais. Alors, puisqu'on a parlé de dogmatisme, là il y a un mot évidemment qui est d'actualité, le mot laïcité, qu'il faut peut-être redéfinir, mais la laïcité pour un maçon, c'est évidemment la même que la laïcité pour tout citoyen. Faut-il rappeler que le maçon est d'abord citoyen ? Alors, laïcité, Patrice.
Alors, c'est un mot qui est, enfin, pour nous, qui est intéressant parce que il illustre un peu notre démarche de tentative de l'imaginaire, de tracer un imaginaire maçonnique. Parce que quand on est maçon, il y a à la fois, dans le mot laïcité, il y a toute cette référence au grand combat de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. Et puis, plus profondément encore, mais ce qui ne retire rien à ces grands combats qui ont été menés en France par le Grand Orient, mais plus profondément sur le plan historique, c'est aussi la manière dont, par exemple, les constitutions d'Anderson de 1723 inventent un art de vivre ensemble, c'est-à-dire vos croyances, votre intimité dans la relation à l'au-delà ne concerne pas la vie publique. Et c'est une façon, dès le début du XVIIIe siècle, d'inventer un art de vivre ensemble.
Mais quand vous dites en sous-titre « c'est une volonté », ça sous-entend que ça n'est pas une évidence, qu'il faut, c'est quelque chose qui est en oui, puissance,
bien entendu.
Alors que c'est un prérequis, la laïcité.
Non, ça ne nous est pas donné.
C'est un long combat.
Ça ne nous est pas donné, c'est un combat permanent, parce que nous ne sommes pas prédisposés à l'origine pour être purement laïcs. Nous avons parfois été formés à l'intérieur de systèmes religieux, à l'intérieur d'une pensée, et il faut vraiment faire un effort. C'est un effort de volonté, la laïcité. Et on ne naît pas laïque, on le devient. On devient par la volonté de l'être. Et je pense que c'est ça. Et c'est peut-être ce qui différencie la laïcité maçonnique. C'est-à-dire que c'est un gain, c'est un acquis. On parle beaucoup des acquis actuellement, mais c'est réellement un acquis, la laïcité maçonnique. Et c'est le refus, essentiellement, de tout dogmatisme.
Alors, un autre mot intéressant, alors évidemment qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le fameux mot de secret. Alors, le secret maçonnique, ça remplit d'ailleurs un certain nombre d'auteurs, tout à fait maçons et d'autres tout à fait anti-maçons. Vous avez dit en sous-titre du secret, parlons-en. Alors, quid du secret
non,
maçonnique.
Nous avons essayé dans ce livre de mettre chaque fois un petit sous-titre qui se voulait drôle ou un petit peu clin d'œil. Donc, parlons-en, ça me paraissait bien adapté. Bon, ben le secret maçonnique, je crois qu'on a tellement dit, on a tellement écrit sur le secret maçonnique que ça devient la tarte à la crème.
Il n'y a plus
en
de
fait,
secret.
Le secret maçonnique, lorsque Léo Taxil, au siècle dernier, dénonce la maçonnerie, on pourrait se demander pourquoi, ayant été maçon, il ne connaîtrait pas le secret maçonnique. Il l'aurait connu de facto, puisqu'il était maçon. Donc il ne l'a pas révélé. Il n'a pas révélé pour cause, parce qu'il n'y a pas de secret maçonnique. Sinon, l'intimité d'une pratique, d'une relation à l'autre, à l'intérieur d'un atelier, à l'intérieur d'une loge, où on établit des relations qui sont très fraternelles. Enfin, il me semble que c'est ça le secret maçonnique.
Oui, c'est ce que dit Jean-François. C'est-à-dire que quand on pense que dès 1730, la première divulgation maçonnique date de 1730. Vous vous rendez compte? Donc, depuis maintenant presque 3 siècles, tout a été écrit sur la maçonnerie. Mais il y a une dimension qu'on oublie toujours, c'est la rigueur, c'est la discipline du secret. En maçonnerie, il n'y a pas de secret, mais il y a une discipline du secret. Et ça, pour le comprendre, il faut être maçon.
Comment que voulez-vous dire par là?
Je pense que cette discipline du secret tient à 2 raisons. La première, c'est qu'il n'était pas bon, il y a quelques siècles, d'être hérétique. La maçonnerie étant considérée comme hérétique, et on finissait assez facilement bûché. Donc, le secret semblait s'imposer sur ce que nous pratiquions en maçonnerie, sur ce que nous disions. Et ensuite, c'est la méthode elle-même qui est une méthode initiatique. Si chacun doit découvrir par lui-même ce qu'il a en lui, ce qu'il porte en lui. Si on devait lui dire auparavant et si on devait lui révéler, ça serait absolument sans effet. La maçonnerie, c'est pas un enseignement qui serait livré par un professeur qui connaîtrait et qui dispenserait un enseignement. La maçonnerie, c'est la découverte progressive de soi-même. C'est totalement différent.
Alors, un autre mot aussi bien utilisé en interne et en externe, c'est le mot de symbole. Alors, toujours dans votre petit clin d'œil, vous mettez en dessous de ce mot une fenêtre sur l'infini. Vous disiez tout à l'heure que on peut avoir un peu d'humour en maçonnerie. C'est pas qu'on peut, c'est que c'est même une nécessité. Ça oui. Ne dérange pas. Il ne faudrait pas comprendre que les maçons ce sont de tristes cires. Et il n'est pas interdit de rire en tenue.
L'humour est indispensable en maçonnerie. J'ai trop vu certains de nos frères qui se prenaient au sérieux, qui avaient un air de la componction et qui arrivaient tristes comme des bedeaux. Oui. Donc je pense que c'est au contraire la manière de prendre avec légèreté ce qu'on doit faire avec gravité. C'est un peu contradictoire, mais c'est un peu ça. Je crois que les mots ont une importance et que les mots de la légèreté permettent de démystifier. en quelque sorte, la lourdeur de certains concepts et la lourdeur, parce que nous manipulons des concepts qui sont extrêmement lourds. Nous parlons de mort initiatique, nous parlons de transformation, nous parlons de spiritualité. Si nous ne les démystifions pas, non pas démystifier, c'est peut-être pas le terme, mais si nous ne les rendons pas plus humains à travers une approche un peu clin d'œil, un peu distanciée, je crois que on sera très vite écrasé par la lourdeur de ces symboles. Donc, il est nécessaire d'avoir de l'humour.
Jean-François, un très joli exemple qui est celui du caillou dans l'eau.
Ah oui.
Un symbole, c'est un caillou qu'on jette dans l'eau et par cercle concentrique, il porte quelque chose sans avoir au départ, c'est pas le caillou qui lui-même...
Non, le caillou n'est rien.
Le caillou ne dit rien, mais voilà, il y a une onde qui se...
T'as dit, j'ai peut-être un peu amélioré, c'est pas des cercles concentriques, le symbole en maçonnerie, il provoque des sphères concentriques. Alors que le cercle est dans un plan, la sphère est dans l'infini. Les limites de la sphère sont infinies. Et le symbole, pardon, je voudrais juste préciser que le symbole, il y a deux sortes de symboles que l'on utilise. Il y a les symboles de convention où on sait très bien que tel petit dessin veut dire cela, que le langage est un symbole de convention, que l'écriture est un symbole de convention. Et puis, il y a le symbole de type poétique. Celui qui nous amène ailleurs, celui qui nous projette dans un ailleurs. Et ça, c'est celui-ci que l'on doit utiliser en maçonnerie. C'est pas l'autre. L'autre, ce serait une convention de langage. Bon, convention de langage.
Alors, puisque vous parlez de l'absence de frontières, il y a bien un des derniers mots, universalisme. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots, Patrice et Jean-François?
C'est une aspiration.
Qui n'est pas une réalité.
N'est pas une réalité.
D'accord.
Et je crois qu'il faut, sur ce point, effectivement, rappeler que la maçonnerie est très liée à la pensée occidentale. Mais l'aspiration à l'universalisme et à l'amour universel me paraît une idée très importante.
Merci Jean-François, merci Patrice. Je vais, avant de clore cette émission, vous donner quelques informations sur les conférences publiques de notre grand maître. Et vous les trouverez évidemment sur notre site www.gldf.org, à Aurillac, à Loches, à Menton, à Cherbourg, à Gneau et à côté de Périgueux. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20 mai. Nous accueillerons le très respectable grand maître qui finit son mandat de 3 ans. Mais il sera interviewé par un autre frère car je serai moi-même hors de France. Il nous reste donc à remercier à la technique Madame Claire Levasseur et toujours fidèle à la réalisation, Dany Journeau. Bon dimanche à toutes et bon dimanche à tous.